Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, un nouveau conseil de défense consacré au coronavirus, c'est ce matin à l'Élysée.
Après l'annonce d'un quatrième décès, nous sommes entrés dans une phase qui va durer des semaines, voire des mois, a prévenu Emmanuel Macron. Nous serons au cœur d'une unité spéciale de dépistage dans un instant. Mais tout d'abord, l'histoire de cette arrestation express en Essonne, à Étampes, grâce à un outil dont on parle assez peu et qui peut s'avérer essentiel contre les violences faites aux femmes, le téléphone grave danger. Il est destiné à certaines victimes en cas de besoin, il suffit d'appuyer sur le bouton « alerte ». C'est ce qu'a fait une jeune femme lundi matin, la police est intervenue en 6 minutes, Guillaume Chiez.
Oui, les policiers d'Étampes avaient été prévenus que l'ancien compagnon de cette femme de 31 ans était sorti de prison samedi et que de fait, sa victime s'était vue attribuer un téléphone grave danger. Le contrôle judiciaire de cet homme est strict, il n'a pas le droit d'approcher son ex-compagne et leurs 4 enfants. Pourtant, lundi matin, il les attend à la sortie de leur domicile, les suit jusqu'à l'école. La mère de famille parvient discrètement à déclencher un appel au centre départemental. Il est 8h45, 6 minutes plus tard, les policiers sont là. L'homme est interpellé. Jean-Louis Molinier est chef du commissariat d'Étampes.
Inévitablement, dès que le téléphone s'est déclenché, il y avait vraiment une situation d'urgence. Il y a un vrai danger imminent, d'autant plus c'est en connaissance de cause, parce que c'est pas la première fois, c'est des faits qui sont récurrents depuis 2018, puisqu'il y a eu plusieurs interventions donc, au domicile de cette femme. Dans ces cas-là, on préfère aller le plus rapidement possible, eu égard à ce qui a pu se passer les mois précédents.
La liberté conditionnelle du compagnon a été révoquée. Il est de nouveau incarcéré jusqu'au mois de mai.
Récit de Guillaume Chiez pour RTL.
RTL matin, 8h02.
Nouvelle réunion à l'Élysée dans un peu plus d'une heure, consacrée au coronavirus.
Avec un objectif numéro 1, protéger le président Emmanuel Macron, privé de bises et de poignées de main. Vous entendiez les infos de William Galibert à 7h. L'entourage du chef de l'État n'exclut pas non plus une délocalisation des services de l'Élysée dans un lieu confiné qui pourrait être le fort de Vincennes. On n'en est pas encore là. Pour l'heure, il s'agit surtout de freiner la propagation du virus et de dépister un maximum de cas, comme dans cette unité spéciale aménagée au cœur de l'hôpital Avicenne de Bobigny, que nous avons pu visiter. RTL en immersion avec Odile Pouget.
Ici, nous avons 12 boxes de prélèvement, c'est-à-dire qu'on peut simultanément accueillir 12 patients.
C'est le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences, qui joue les guides. Sur la porte de chaque box, un petit papier de couleur.
On a mis un système complètement primaire, mais dans l'urgence, on n'a pas pu faire autrement. Donc un bout de carton, un bout de scotch. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un patient derrière. Et quand c'est vert, c'est qu'on peut rentrer.
À l'intérieur de la petite pièce au mur nu, le mobilier est réduit au strict nécessaire.
On l'a simplifié au maximum pour faciliter le bio-nettoyage. C'est-à-dire, vous voyez, simplement une chaise sur laquelle se met le patient. Ce qui est important, c'est que chaque box a une fenêtre. L'air qui peut-être contaminé, puis s'évacuer. Les recommandations nous disent 15 minutes les fenêtres ouvertes entre chaque patient.
Précaution maximum également pour l'infirmière et l'aide-soignante qui vont effectuer le prélèvement.
On a une tenue jetable. On a de quoi se laver ici, parce qu'on se lave avant de rentrer chez nous.
Angélique, aide-soignante.
Le manugel, les gants, les surblouses, les masques, on a tout ce qu'il faut, vraiment.
Les patients envoyés ici par le SAMU portent des masques, accueil administratif, prise de tension, relevé de température, entretien avec un médecin, avant de passer le test.
On insère une espèce de coton-tige, mais grand, dans la narine, et ça va, ce qu'on appelle, aller dans le nasopharynx, c'est-à-dire en arrière du nez. Ça fait pas mal, c'est un peu désagréable. Après, on exerce une rotation sur l'axe du coton-tige. On l'enlève, ça dure quelques secondes.
Le prélèvement est aussitôt placé dans une enveloppe hermétique.
Voilà, et on rabat pour la fermeture du sachet.
Et envoyé au laboratoire de virologie juste en face.
On voit qu'ils sont stressés, qu'ils sont angoissés. Dès qu'ils sortent du box, on est présent. Voilà, on a des petites collations pour les faire patienter aussi, parce que ça peut être long pour eux.
Entre 4 à 5 heures d'attente avant d'obtenir les résultats.
Les patients qui sont infectés, pour l'instant, on les hospitalise dans notre service. C'est un service de 22 lits.
Hugues Cordel, infectiologue.
Ça va probablement changer avec l'explosion de l'épidémie très rapidement. Les patients qui vont bien pourront rentrer chez eux avec toute une liste de consignes et on les reverra en consultation. Il y a tout ça qui est en train de se mettre en place.
Pour l'instant, 30 tests peuvent être réalisés chaque jour dans ce centre de dépistage.
RTL en immersion, signé Odile Pouget. Dans une heure, les salariés du musée du Louvre se réunissent pour décider de reprendre ou non le travail. Depuis dimanche, ils exercent leur droit de retrait comme des chauffeurs de bus en Essonne qui s'estiment en insécurité.
Sont-ils dans leur droit? Eh bien, c'est la question de 8h.
Et c'est avec vous, Éric Vanier, bonjour.
Bonjour.
Ce droit de retrait pour coronavirus est-il légal?
Alors ça dépend du contexte. Il est abusif si le salarié n'est pas menacé par un danger grave et imminent, en l'occurrence s'agissant du coronavirus, par des cas de contamination ou de suspicion de contamination à proximité, et notamment dans son entourage professionnel, ou, je vous donne un autre exemple, par la décision autoritaire de son chef de service de l'envoyer dans une zone hautement infectée. Là, oui, vous pouvez faire jouer votre droit de retrait, c'est-à-dire quitter sur le champ votre poste de travail sans demander l'autorisation, simplement donnant le motif à votre supérieur hiérarchique.
Mais s'agissant de ces compagnies de bus dans l'Essonne et du musée du Louvre, il n'y a aucun cas de contamination avérée.
Non, mais le Code du travail dit aussi qu'un employeur doit garantir la sécurité et la santé de ses employés et prendre les mesures préventives nécessaires. En l'occurrence, si les conseils de prudence et les consignes de comportement qu'il faut avoir par rapport au coronavirus ne sont pas relayés dans l'entreprise, si des produits antibactériens, voire des masques, ne sont pas mis à la disposition du personnel potentiellement exposé, le droit de retrait, là aussi, peut s'exercer en toute légalité le temps que des mesures de prévention soient prises.
Est-ce qu'un salarié qui exerce abusivement son droit de retrait peut être sanctionné?
Non, aucune sanction, aucune retenue sur salaire n'est possible tant que l'exposition au danger persiste. Après, il peut toujours y avoir des différences d'interprétation et d'appréciation de la situation entre l'employeur et le salarié qui s'est mis en retrait. Ça peut aller jusqu'au prud'homme, mais le plus souvent, ça se règle par le dialogue et la bonne volonté de chacun.
La question de 8h ce matin avec Éric Vanier qui est en pleine forme.
En Italie, on a enregistré 500 cas supplémentaires en 24 heures. La demi-finale de la Coupe d'Italie qui devait opposer ce soir la Juve à l'AC Milan a été reportée sur ordre du préfet. Et puis dans la série de ceux qui surfent sur l'épidémie, la palme revient à une église évangélique brésilienne qui a promis à ses fidèles de pouvoir immuniser contre le coronavirus grâce au pouvoir de Dieu. Une enquête est ouverte pour délit de charlatanisme.
À 8h20, après deux mois de coronavirus, que sait-on de plus aujourd'hui sur l'évolution du virus lui-même, les traitements notamment. Nous ferons le point avec Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste à l'Institut Pasteur.
RTL 8h07.
Aux États-Unis, le Super Tuesday a viré au Crazy Tuesday.
On s'attendait à ce que la primaire démocrate soit cannibalisée par les deux vétérans de la course, Bernie Sanders d'un côté, Joe Biden de l'autre. Ce qu'on n'imaginait pas en revanche, c'est que le second s'imposerait, même si on n'a pas encore les scores définitifs. Joe Biden, l'ancien vice-président, remporte à l'instant le Texas, l'un des États clés. Il est la surprise de ce Super Tuesday et on peut dire qu'il devient le favori, Philippe Corbet.
Oui, c'est un peu le retour du mort-vivant. Ces derniers mois, quand j'ai suivi Biden, il semblait mécanique, rouillé, mou, sonné. Il a d'ailleurs bu la tasse dans les premières primaires. Il était surnommé le zombie. Et il s'en est moqué ici cette nuit à Los Angeles avec une énergie qu'on n'avait pas vue depuis longtemps.
C'est une bonne soirée, c'est pas fini.
And the seats be getting even better. They don't call Super Tuesday for nothing.
On n'appelle pas ça le Super Tuesday pour rien. On disait que la campagne était morte, mais nous sommes très vivants.
Même si Sanders gagne le plus gros état ici, la Californie, Biden n'est pas loin derrière. Surtout l'ancien vice-président d'Obama vient de gagner le Texas. Très grosse surprise. Et il remporte largement de nombreux états clés de l'Est et du Sud. Tout a basculé en trois jours. Plusieurs candidats centristes se sont ralliés à Biden pour barrer la route à Sanders qui devait tout balayer. Ils se sont ralliés car Biden a prouvé que c'est lui qui a un large soutien de l'électorat noir comme Gary, un électorat clé pour battre Trump.
La communauté noire, c'est la colonne vertébrale de ce parti. Beaucoup de gens sont mal à l'aise avec Sanders et pensent qu'il pourrait perdre en novembre.
Les chances de battre le président, c'est l'argument déterminant pour toute l'Amérique anti-Trump.
Philippe Corbet à Los Angeles pour RTL. La politique en France, pas de surprise en revanche pour l'adoption en première lecture à l'Assemblée de la réforme des retraites grâce au 49-3. Les motions de censure de l'opposition ont été rejetées. Le texte poursuivra sa route au Sénat avant de revenir à l'Assemblée. Adoption prévue avant l'été.
Notez que Laurent Berger, qui avait qualifié de désastreux l'usage du 49-3, sera l'invité, lui, de Thomas Soto ce soir sur RTL à partir de 18h.
Le leader de la CFDT qui signe ce matin avec 54 associations une tribune sur notre site RTL.fr aux côtés notamment de Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre qui sera également invité ce soir. Il interpelle les candidats aux municipales sur le pouvoir de vivre. Ils font des propositions pour un pacte. C'est à lire donc sur notre site RTL.fr.
RTL, municipal 2020.
Rachida Dati progresse dans les intentions de vote à Paris. Sondage Harris Interactive Epoca pour RTL et LCI. La candidate LR en tête au premier tour à 25%, prend 2 points. Anne Hidalgo, 24% plus 1. Agnès Buzyn, 3e avec 17% plus 1 point également. Les candidats parisiens débattront ce soir sur LCI à partir de 20h45. Émission en partenariat avec RTL. Attention, si vous êtes en Ile-de-France et vous prenez les transports, notez qu'il n'y a pas de RER B aujourd'hui entre Paris et Roissy-Charles-de-Gaulle. Entre 10h et 16h et après 20h, le réseau est perturbé à cause d'un problème d'alimentation électrique.
Et dans un court instant, le procès Fillon. La parole aujourd'hui à son lieutenant Marc Joulot.
RTL, il est 8h10.
RTL Matin.
RTL 8h11, la suite du journal Jérôme Florin et Yves Calvi.
Nous sommes le 4 mars, c'est l'anniversaire de François Fillon.
Et l'ancien Premier ministre aurait sans doute souhaité fêter ça ailleurs qu'au tribunal. Il entendra aujourd'hui le témoignage de son ancien lieutenant, Marc Joulot, homme discret, fidèle comme une ombre. À partir de 2002, il prend la place de député lorsque François Fillon devient ministre et il emploie lui aussi Pénélope Fillon, Cindy Hubert.
Absolument, c'est sans aucun doute l'une des périodes les plus embarrassantes pour le couple Fillon. On est en 2002, François Fillon part au gouvernement, Marc Joulot, le fidèle, le remplace dans la Sarthe. Sa collaboratrice sera Madame Fillon, il n'a pas vraiment le choix. Le contrat arrive déjà rempli, il n'a plus qu'à signer sans discuter du salaire. Pénélope Fillon gagne alors 5200 euros net par mois, bien plus que le député. Marc Joulot est d'un naturel timide, Pénélope Fillon est censée guider le jeune élu dans ses premiers pas. Mais là encore, son travail n'a laissé aucune trace. Et à supposer que Marc Joulot ait été réellement handicapé par une timidité maladive, ironisent les juges. On voit mal comment Pénélope Fillon, qui se décrit elle-même comme particulièrement réservée, aurait pu lui être d'un quelconque secours. Marc Joulot se prépare donc à une journée éprouvante, lui qui continue d'espérer une réélection à la mairie de Sablé-sur-Sarthe.
Cindy Hubert.
En Grèce, sur l'île de Lesbos, les ONG lèvent le camp.
Oui, les associations annoncent avoir suspendu leur travail auprès des réfugiés qui arrivent en masse depuis que la Turquie a ouvert ses frontières. On a vu débarquer près de 2000 migrants en 4 jours. La colère des habitants s'est transformée en violence avec des militants d'extrême droite très présents comme vous l'avez constaté sur place Sinamir.
Oui, habillés tout en noir, très souvent armés de bâtons ou de chaînes, ces dizaines d'insulaires proches de l'extrême droite grecque font depuis le week-end dernier la loi sur l'axe principal de Lesbos, comme en témoigne Andreas, un habitant de l'île.
Environ 30 personnes ont entouré ma voiture pour m'intimider, me menacer hier. Ils m'ont demandé pourquoi je voulais rentrer dans le village, si j'habitais là, si je travaillais pour une organisation humanitaire. La police est là, à quelques mètres, elle laisse faire. Depuis que je suis ici, j'ai jamais vu quelque chose comme ça.
Les vannes des ONG, les voitures de location sont les premiers ciblés, caillassés. Certaines organisations évacuent leur personnel de l'île. Les loueurs comme Sarapo, eux, n'assurent plus non plus leurs véhicules.
Cette situation nous divise en deux camps. Personne ne se soucie des réfugiés, personne ne s'occupe de l'île. L'Europe, ils parlent avec Erdogan qui utilise les humains comme des munitions. Ils parlent avec la Grèce, mais ils s'en fichent tous de nous. Les gens accusent donc bêtement les réfugiés.
Plusieurs dizaines sur le port principal ont même cru hier à la rumeur d'une évacuation massive vers Athènes. Ils ont finalement été escortés par la police jusqu'au centre de l'île pour éviter de nouveaux heurts avec ces milices extrémistes.
Sinamir, envoyé spécial de RTL en Grèce. En football, 8 mois après la fièvre du mondial, les Bleus ES à la fin sont de retour avec le coup d'envoi cet après-midi du tournoi de France. Elles affrontent le Canada, ce sera à 17h, match à suivre sur W9. Et puis pour les messieurs, l'OL reçoit le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Ce sera à 21h10 avant l'autre demi-finale demain, Saint-Étienne-Rennes.
C'était le journal de Jérôme Flora.
Il est 8h15.